David Abiker. Avec David, donc, une revue de presse, c'est à la une, et bien il s'agit de la coupe. Et la coupe commence par la COP qui se termine.
La coupe commence, la COP se termine, vous l'avez dit, et les deux sont à moitié vides ou à moitié pleines. Le mondial, c'est parti, mais sans Benzema, titre la Charente libre. Il faut relever le défi, titre pour sa part sud-ouest, qui cite le sélectionneur Didier Deschamps. Place au foot, lance la Provence ce matin, qui parle d'une ouverture de compétition dans un stade posé sur le désert et surclimatisé, dans lequel l'équipe du Qatar a pris une gifle face à l'Équateur. Voilà pour la coupe à moitié pleine.
2-0.
Pour la COP, c'est pareil, une COP à moitié vide, titre le Télégramme. L'urgence climatique attendra, se désole Libération qui parle d'un accord à minima. Les co-évoque les avancées et les impasses de l'accord, dont il ressort que les États ont réussi à se mettre d'accord tout de même sur le principe d'un fonds d'aide aux pays en développement pour faire face aux sécheresses, aux inondations et à la hausse du niveau de la mer. C'est justice, estime Julie Chauveau dans Les Échos. C'est la COP à moitié pleine, observe Libération, pour qui nous avons affaire à un accord minimaliste qui ne prévoit pas de sortie des énergies fossiles. Pour l'opinion, la COP 27 fut un gros machin pour rien. La COP 28, ce sera l'an prochain à Dubaï, ironise le journal, un des pays qui émet le plus de CO2 par habitant au monde. Il serait peut-être temps d'arrêter les frais, estime Marie-Catherine Butt, pour qui, en résumé, ces COP 27, 28 ne servent à rien, quand pour d'autres, une COP, c'est déjà mieux que rien.
La une du Parisien aujourd'hui en France revient, et c'est d'ailleurs très émouvant, sur les derniers jours de Samuel Petit, mon cher David, il craignait pour sa vie, clairement.
Paty se savait menacé, la direction du collège où il travaillait le savait. Ses collègues ont essayé de l'aider, mais ça n'a pas suffi. C'est ce qui ressort ce matin de la lecture du Parisien aujourd'hui en France. Le journal fait le récit des jours qui ont précédé l'assassinat du professeur d'histoire et montre qu'une protection policière aurait pu être décidée. Le quotidien décrit un homme esselé, apeuré, aux abois. L'enfer commence à partir du 6 octobre, après la projection d'une caricature de Mahomet. Le collège, très vite, ne tarde pas à recevoir des messages du monde entier, des messages menaçants. L'agent d'accueil du collège est inquiète pour l'enseignant et surveille son emploi du temps, redoutant des attroupements aux abords du collège. Le 10 octobre, l'enseignant écrit un mail à ses collègues, leur expliquant qu'il est menacé par des islamistes locaux. Il s'exposera en retour à des sous-entendus de deux collègues qu'il soupçonne d'islamophobie. La principale du collège, elle, alerte les autorités de police et le rectorat. Paty commence à prendre des précautions. Il se fait raccompagner en voiture par des collègues, évite de se faire déposer devant chez lui, rabat sur sa tête une capuche pour se faire discret. 3 jours avant sa mort, ses recherches Google montrent qu'il a peur, qu'il se renseigne sur la notion de trouble à l'ordre public.
Et le témoignage de la principale est totalement éclairant.
Le 7 octobre, elle a alerté le renseignement territorial. Le lendemain, elle reçoit la visite de Brahim China, père de l'élève qui a raconté en le déformant le cours de Samuel Paty sur la laïcité et la caricature. L'homme, le père de l'élève, est flanqué d'Abdelkaïm Sefrioui qui lance à la fonctionnaire que s'ils avaient été juifs, on ne les aurait pas laissés attendre dehors dans le froid. Dès la fin de l'entretien, la principale prévient le référent police du commissariat pour demander une sécurisation du collège. La vidéo qui met en cause Samuel Paty atteint les 800 vues le samedi qui suit. Le lundi, le collège reçoit un message audio de menace directe. Le mardi, la principale et le prof portent plainte. Que fait la police? Elle conseille à l'enseignant de se rendre au travail en voiture. Paty est tué le vendredi suivant. On retrouvera un marteau dans son sac le jour des faits. Un mois plus tard, le département des Yvelines fait installer une grille devant le collège. 4 ans que la principale la réclamait.
Le tablier à l'école débat dans le Figaro.
Débat relancé alors que le port de tenues religieuses telles que les abayas, camis et autres signes extérieurs de foi laissent bien des professeurs démunis et que les députés de la majorité présidentielle ont déposé une proposition de loi pour une tenue commune à l'école. Pour Madeleine Bazin de Gesset, professeur de littérature en classe prépa, quoi de plus favorable à la liberté qu'une tenue qui affranchirait l'école et les élèves de la mode et du consumérisme au profit de vêtements qui inciteraient à la sobriété et à la durabilité. Fini les marques, les jeans troués, etc., etc. Pour l'enseignante, en classe préparatoire, l'uniforme contribuerait à refaire de l'école un sanctuaire. Inversement, pour l'historien de l'éducation, Claude Lelièvre, il n'y a jamais eu d'uniforme dans le primaire public métropolitain. Certes, beaucoup d'élèves portaient des blouses, mais elles étaient plus ou moins disparates et servaient d'abord à protéger les vêtements des taches. Il y eut, poursuit l'historien, un précédent sous le Premier Empire. Les lycéens devaient porter le même uniforme, un habit vert, culotte bleue, collet et parement bleu céleste, chapeau rond et bouton jaune métal. Ça concernait 30 lycées à l'époque et ça n'a pas duré. Une mise en uniforme généralisée, explique Claude Lelièvre, serait compliquée. Qui la déciderait? Serait-ce l'établissement ou le niveau national? Serait-ce obligatoire pour tout le monde et partout sur le territoire? Qui payera? À quoi ressemblera l'uniforme? Sera-ce le même pour les filles et les garçons? Clairement, ceux qui pensent que l'uniforme est une réponse simple à des problèmes complexes n'ont pas fini d'en débattre dans les pages débat du Figaro et ailleurs. Ça n'empêche pas les jeunes d'avoir un certain bon sens, si on en juge par un sondage massif BVA publié dans le Figaro Écho, qui les interroge sur leur rapport à l'entreprise et au travail. Pour ces jeunes de 18 à 24 ans, la principale mission d'une entreprise, c'est de créer de l'emploi et de recruter. Quant à leurs aspirations vis-à-vis du travail, il y en a trois. À être bien payé, avoir un job intéressant, rester dans l'entreprise le plus longtemps possible, si possible, éviter l'excès de télétravail et avoir un bureau attitré. Ça, c'est pour les bacs plus 3. Voilà qui change des délires de la génération climat et qui ressemble aux aspirations et à l'entreprise de maman et papa.
Merci mille fois. 8h38,